Le rêve que j'aurais pour Haute Savoie Habitat, c'est d'être demain, en tout cas, l'un des acteurs qui fait partie du changement, qui est référent dans son domaine. J'ai envie qu'on fasse partie de la solution et que finalement on fasse partie des acteurs qui soient connus à l'échelle territoriale et nationale dans le changement de notre, en tout cas de la politique sociale et environnementale des entreprises dans notre pays. Et de se dire que plus tard, peut-être quand nos petits-enfants, mes enfants seront grands, ils diront ben, « papa, il a fait partie de ça » ou en tout cas, c'est grâce à Haute Savoie Habitat qu'on a changé telle ou telle chose dans notre monde social et d'entreprise.
Je suis convaincue qu'on est dans la bonne direction. On se donne les moyens, en fait, d'aller dans l'engagement responsable. Moi, en tout cas, tous les jours, on me permet, en fait, de porter des projets novateurs. Donc, j'estime que j'ai vraiment une énorme chance, en fait.
Il faut parler surtout d'écosystème entre les locataires, les espaces verts. Enfin, espaces verts, je parle animal comme végétal. Hein. Et nous, en fait, tout ça est un écosystème, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler.
Si on est vivant, c'est quand même grâce à juste un matériau qui est la terre, quoi. La terre, mais la terre marron qui est sous nos pieds. C'est grâce à ça qu'on est vivant et c'est la base, ce sur quoi on doit travailler, en fait.
Bonjour et bienvenue dans la dernière partie de notre podcast à l'unisson sur le thème de l'engagement responsable chez Haute-Savoie Habitat. Dans les deux précédents épisodes, nous avons partagé avec vous les différents éléments qui nous ont amenés sur le chemin de l'engagement responsable, ainsi que la question de l'embarquement de nos parties prenantes. Dans ce dernier épisode, nous mettrons en lumière certains projets, certaines actions, traduisant cet engagement responsable et notre volonté d'aller vers un modèle d'entreprise régénérative. Je m'appelle Emma. Et pour cet épisode, je suis accompagnée de mes collègues Audrey, Joanne et Sophia. Ensemble, nous vous emmenons dans nos coulisses. Imaginez, c'est une chaude journée d'été. Vous êtes allongé dans l'herbe, à l'ombre d'un saule pleureur planté par votre voisin. Vous êtes bercé par le chant des oiseaux et le bruit des enfants qui jouent au loin. Vous percevez également le murmure d'une conversation entre deux voisins. Vous êtes au cœur de la ville et pourtant, tout est si calme, si paisible. Dans une heure, vous avez rendez-vous avec votre voisine pour organiser le prochain déjeuner partagé qui se déroulera juste après un atelier fresque de la biodiversité que vous souhaitiez animer depuis longtemps. Vous êtes heureux que tous vos voisins aient répondu présent. Il fait bon vivre dans ce quartier que vous avez imaginé avec eux quelques années auparavant. Voilà le rêve qui est porté par de nombreux collaborateurs chez Haute-Savoie Habitat. Pour en arriver là, de nombreux salariés se démènent pour mener à bien des projets alternatifs, innovants, avec et pour nos locataires. Depuis 2006, des actions ont été engagées comme la rédaction par un collectif de salariés d'une charte de développement durable. Mais le véritable virage est pris en 2019 avec notamment la mise en place d'un groupe de travail achat responsable qui a vu le jour suite à la retraite silencieuse du CODIR Labo comme présenté dans le premier épisode. Amandine Miclard, coordinatrice des achats responsables, revient sur la création de son poste et le lancement du groupe achat responsable.
J'ai intégré Haute-Savoie Habitat en avril 2017. C'était la création de l'activité technique achat. L'idée, c'était de faire monter en compétences les salariés de manière générale et les acculturer à la notion d'achat. Et dès fin 2019, en fait, le CODIR a mis en place un groupe appelé Haute-Savoie Habitat Acheteurs Responsables. C'était pour objectif de démontrer notre engagement vers une entreprise responsable et éthique. Ce groupe, il était composé de l'ensemble du CODIR et de représentants volontaires dans chacune des directions. Et il s'est tenu chaque mois en visio pendant 18 mois. C'est comme ça que la définition de acheteur responsable au sein de Haute-Savoie Habitat a été co-construite. Elle regroupait les notions de cap confiance vers l'ensemble des parties prenantes, Elle reprenait aussi les trois dimensions qu'on entend habituellement dans le développement durable, à savoir économique, social, environnemental. Et on reprenait déjà les notions de respect du vivant et du cycle de vie. Et en fin de compte, c'est grâce à ce groupe acheteurs responsables qu'ont émergé les missions de chargé de mise en œuvre de l'engagement responsable, mais aussi que mon activité, donc historiquement technique achat, a évolué vers la coordination des achats responsables. Donc avec la notion de achat responsable directement dans l'activité, ça signifie que tous nos achats doivent être responsables. Ce groupe, il nous a aussi permis de prendre en compte la gestion des paradoxes. En fin de compte, on a des intentions parfois contradictoires, comme construire de plus, mais en même temps être aussi vertueux et prendre soin de notre écosystème, de la biodiversité, du vivant. Donc un peu trouver l'équilibre entre les besoins sociaux, sociétaux et les impacts environnementaux. Et donc c'est vraiment ce groupe qui a permis de mettre le point sur ces paradoxes. Et c'est l'atteinte de ces objectifs qui a permis de mettre fin à ce groupe. La fin de ce groupe, en fait, a vraiment donné une nouvelle impulsion à mon activité et a permis d'étoffer les équipes pour pouvoir travailler plus en amont des achats, pas uniquement d'accompagner dans la passation des consultations, mais vraiment de réfléchir sur le besoin. C'est-à-dire comment on peut réfléchir en amont la façon d'éviter ou en tout cas de réduire l'impact de nos achats sur toutes les dimensions du développement durable.
Cette première évolution d'un service n'est que le début. Comme évoqué par Amandine, un poste a été créé pour accompagner la mise en œuvre de cet engagement responsable. Ludovic Morava nous présente son poste.
Je suis chargé de la mise en œuvre de l'engagement responsable. Je prends donc mes missions du COPI l'engagement responsable. Ma fonction consiste à la fois à structurer notre direction socio-écologique et à mettre en œuvre notre stratégie qu'on peut qualifier d'environnementale. J'accompagne également les équipes dans cette transformation. Donc ma fonction, c'est d'aiguiller avec le labo CODIR et de coordonner la diffusion de ces nouvelles valeurs aux côtés des directions.
Ludovic participe notamment au travail autour de la transformation de la direction financière vers une direction des valeurs. Denis Belleville, directeur de cette direction, nous en dit plus.
Alors effectivement, nous sommes engagés dans une évolution qu'une transformation de la direction financière, puisque jusqu'à aujourd'hui, nous comptons des euros, des capitaux. Et donc, ce pilier économique devra être agrémenté de deux autres piliers, que sont le pilier social et le pilier environnemental. Donc, à ce titre, nous produirons prochainement des données extra-financières dans le cadre de la production de nos comptes financiers, donc qui ne seront plus que des comptes financiers, mais des comptes beaucoup plus élargis. Donc, nous engageons vers une comptabilité qu'on appelle comptabilité verte, ou comptabilité multicapitaux, qui devrait être un aiguillon transformatif sur notre façon d'opérer nos missions au niveau de Haute-Savoie Habitat. Et puis ça s'inscrit également dans la démarche de notre projet d'entreprise vers demain, puisque en même temps que les propositions qui ont été faites par les différents groupes de travail, il y a tout un tas d'indicateurs qui seront définis et suivis et donc qui permettront de reporter sur la réalisation de ces propositions.
Pour opérer ces transformations, l'entreprise compte sur l'ensemble de ses salariés. Elle les encourage et les soutient dans la mise en place de projets innovants, comme en témoigne Sophie Fouquier, technicienne bâtiment au pôle travaux dans la direction du patrimoine et du renouvellement urbain.
Je suis convaincue qu'on est dans la bonne direction. On se donne les moyens, en fait, d'aller dans l'engagement responsable. Moi, en tout cas, tous les jours, on me permet, en fait, de porter des projets novateurs. Donc, j'estime que j'ai vraiment une énorme chance, en fait, de faire des projets novateurs. Moi, ça me porte vraiment, en fait, c'est ce qui me parle le plus. C'est motivant, en fait, de trouver des nouveaux partenaires, parce qu'il y a très peu d'entreprises qui savent faire ça, de mettre en place les méthodologies, le nouveau process. C'est vraiment intéressant. J'ai utilisé la ouate de cellulose en isolation dans les combles. C'était pas facile, en fait, de trouver de la ouate de cellulose qui avait des certifications qui permettaient de les poser pour avoir les bonnes assurances. J'étais motivée pour trouver ce type de matériau et de le poser. La ouate de cellulose, en fait, c'est du papier journal reconditionné qui permet d'isoler les combles, les murs. C'est de la récup, c'est un matériau reconditionné en fait.
Un autre projet de construction employant un matériau innovant a été porté cette fois-ci par Adrien Violet, chargé de projet chez Haute-Savoie Habitat, au sein de la direction du développement et de la construction.
L'aventure du béton de bois, elle a commencé de manière un petit peu opportuniste, on va dire. C'était une période où il y avait la réglementation thermique 2020 qui se lançait et on se disait ça serait bien de regarder un petit peu, d'essayer d'anticiper les futurs échelons de la RE 2020. Et là-dedans, il y a notamment un aspect carbone qui a respecté. Et donc là, sur un des projets à Mancy, j'ai un économiste qui m'a dit à l'époque, j'ai entendu parler d'un béton de bois, quelque chose qui s'est fait un petit peu dans la Loire sur des villas individuelles. Donc on est allé un petit peu plus loin. On a demandé à rencontrer le fabricant et le commercial de ça, qui est venu nous faire une petite présentation, qui nous a vendu son produit et qu'on a trouvé intéressante. Donc du coup on a décidé de mettre une option sur notre projet, d'essayer d'étudier ce procédé constructif, tout en continuant quand même notre projet de construction qui était initialement prévu en briques. Donc on a avancé les deux options en parallèle parce qu'on ne savait pas ce que c'était ce béton de bois, mais on a demandé, nous, à notre équipe ingénierie, de pousser l'étude. Donc le principe, c'est des panneaux qui sont fabriqués en usine, donc avec des copeaux de bois, c'est composé à 80% de bois. Et ces panneaux, ils sont acheminés sur le chantier et empilés un peu comme des Legos pour faire un bâtiment. Donc sur le papier, c'est un produit qui est super séduisant sur plusieurs aspects. Premier aspect, c'est que c'est un produit qui capte du carbone et qui est compté de manière négative dans nos calculs carbone de construction. Là, pour le projet d'Amancy, on capte 40 tonnes d'équivalent CO2 dans notre construction. Donc c'est énorme. Un des gros avantages aussi, c'est que ça permet d'avoir un super confort thermique et acoustique pour nos résidents, parce que c'est un produit qui est perspirant, donc il laisse rentrer, il régule l'humidité automatiquement. C'est un produit qui est 100% recyclable. À la fin de vie du bâtiment, ces copeaux de bois, ils peuvent être concassés et réutilisés pour faire d'autres panneaux de copeaux de bois. Et c'est un produit qui est biosourcé. Et puis un des gros avantages aussi que nous on a vu, c'est que c'est un produit qu'utilise un maçon, et un maçon il est trois fois plus rapide à construire avec des panneaux préfabriqués qu'en béton traditionnel. Ce qui a été très intéressant, c'est que donc nous on avait rencontré le créateur de ce béton de bois qui est un grenoblois, et eux ils étaient en train de se développer et ils étaient en train de demander les avis techniques pour faire du bâtiment collectif. Et au moment où on les a rencontrés, eux, ils n'avaient pas d'avis technique. Donc nous, au début, ça nous a fait peur, parce que si on n'a pas d'avis technique, notre bureau de contrôle ne nous donne pas de validation. Du coup, on ne peut pas se faire assurer nos bâtiments. Donc c'est, dans la construction neuve, c'est compliqué d'avancer sans avis technique. Et ils nous ont dit que c'était l'occasion aussi pour eux de développer un avis technique pour faire du collectif. Donc on a mis un petit peu nos calendriers en phase et il s'avère que ça collait bien, puisqu'ils ont eu l'avis technique pile au moment où on commençait le chantier. Donc Du coup, c'est passé avec le bureau de contrôle et avec nos assurances. Donc, on a pu se lancer. Et eux, c'est du coup leur premier projet en habitat collectif. On a eu une double opportunité, c'est qu'il y a donc ces Grenoblois qui développaient ce produit. Ils ont commercialisé, ils ont vendu leur licence à un préfabricant au Savoyard qui s'appelle Préfa du Léman, qui est juste à côté de notre opération. Donc là, ça avait encore plus de sens et donc ça nous a encore plus motivés à pousser cette option. Donc comme je disais au début, on avait quand même l'option brique en secours si jamais ça capotait. Et à l'issue des appels d'offres, bon, on s'est rendu compte que le béton de bois était quand même plus cher que de la brique, mais qu'elle avait du sens. Et du coup, on a décidé de valider l'option béton de bois et d'abandonner la brique sur notre projet. Alors bah, pour la suite, on va... Sur le papier, pour l'instant, c'est un produit qui nous séduit. Donc maintenant, on va voir en application pratique sur un chantier, voir comment ça se passe, voir les relations qui peut avoir aussi avec le fournisseur, sur la mise en œuvre s'il n'y a pas de difficultés, sur la pérennité dans le temps. Mais pour la suite, nous, on est séduit par ce matériau et on a envie de éventuellement le replacer sur d'autres projets. Et développer ça, quoi, parce que on se dit que c'est aussi l'avenir de capter du carbone dans nos constructions, c'est important.
Tous les projets n'utilisent pas des matériaux novateurs, néanmoins les salariés essaient d'appliquer au maximum la logique ERC, éviter, réduire et compenser. Sophie nous partage un projet de réemploi de matériaux.
Globalement, en fait, ce qui me motive, c'est de réfléchir tous les jours sur tous les projets, voir comment on peut faire bouger les lignes, en fait, même sur la récupération des matériaux. Le Tenverge à Six Fers à cheval, des volets très fatigués. Donc un site un peu particulier qui est très savoyard, en fait, c'est le plein centre de Six Fers à cheval, donc on peut s'imaginer bâtiment fin 19e, début 20e, des volets en bois très sollicités par la météo, le soleil, la pluie, la neige, et en fait bah, je les ai pas fait remplacer, je les ai fait réparer, ils sont comme neufs en fait. Désormais, j'ai trouvé un menuisier qui les rénove et qui les remet à neuf, et on part de nouveau sur une garantie de 10 ans. Et bah, c'est une réussite parce que bah, esthétiquement, en fait, le bâtiment reste dans son cachet d'origine. Au niveau architectural, on n'aura pas mis des volets roulants moches. Et on a gardé des jolis volets en bois, savoyard. Et ouais, c'est une réussite architecturale, quoi. Et aussi, bah, même pour l'entreprise, en fait, c'est valorisant, en fait, que de remettre à neuf un matériau qui, normalement, serait parti à la poubelle.
Ces différents projets n'auraient pas pu voir le jour sans ces entreprises de confiance qui ont à cœur de travailler main dans la main avec Haute-Savoie Habitat. Toujours dans cette dynamique de changer les choses et d'innover, Sophie nous partage un projet qui lui tient particulièrement à cœur, visant la régénération des sols.
Sur 2023, je suis en train de porter un projet inédit, en fait, qui concerne la désimperméabilisation des sols. Donc en fait, sur ce projet-là, c'est un projet pilote sur Annecy-Lieu. C'est un petit parking de 300 mètres carrés, où la surface a été utilisée pour la base vie de la réhabilitation du Ponchy. Donc en fait, le terrain est mort, c'est tout tassé, enfin ça ressemble plus à rien. Et donc je dois recréer un parking, réagencer un parking. Les sols qui sont enrobés, les parkings qui sont en enrobé noir, on peut les considérer comme étanches. Le but du jeu, entre guillemets, c'est d'enlever l'enrobé actuel et de le remplacer par un enrobé dit perméable. Quand on va creuser la terre, on va la mettre de côté, on va l'analyser, savoir ce qu'il y a dedans, pour pouvoir l'enrichir et trouver un bon compost, de bons adjuvants pour que de nouveau cette terre redevienne nourricière, pour pouvoir planter en fait à la fin du chantier. Il y a plein d'enjeux en fait dans ce projet. On ne sort pas la terre qu'on escave, elle ne sortira pas du site et elle sera réutilisée sur place. mais pas pour des fondations ou autres, elle sera de nouveau réutilisée en substrat. Et là, on est vraiment dans la régénération de la terre, en fait.
Les locataires seront informés de l'avancement et auront des notes explicatives. On mettra des petits panneaux pédagogiques pour leur expliquer. Donc ça, c'est vraiment un projet intéressant parce qu'en fait, il y a plusieurs dimensions. Il y a la dimension de l'eau avec la problématique des inondations, la dimension aussi du vivant, en fait, avec la régénération des sols. En fait, tout part de là parce qu'on parle de la biodiversité, on s'agite avec ça. Mais en fait, sans comprendre que si on est vivant, c'est quand même grâce à juste un matériau qui est la terre, quoi. La terre, mais la terre marron qui est sous nos pieds. C'est grâce à ça qu'on est vivant. Et c'est la base, ce sur quoi on doit travailler, en fait. Bien sûr, il faut s'intéresser à toutes les portes d'entrée pour régénérer le vivant. Mais la porte d'entrée principale, en fait, c'est là où il y a le plus de vivant, où il y a le plus de biomasse. La biomasse la plus importante, elle se situe dans la terre.
Toujours dans l'optique de la régénération des sols, Sophie fait également partie d'un groupe de travail dénommé Kiss the Ground.
Kiss the Ground, en fait, est né d'une lettre de mission de Pierre-Yves Entrasse, donc inspirée du visionnage du film du même nom. Donc en fait, il s'agit de donner corps à des actions visant à régénérer les sols. Sur le patrimoine en fait non bâti d'Haute-Savoie Habitat. On va partir avec un organisme qui s'appelle Terrabella, qui va nous apprendre en fait à développer des projets avec les locataires sur la régénération des sols, en fait, leur apprendre à créer des jardins-forêts, à les créer et à les entretenir. Donc, c'est à destination des locataires, bien sûr, mais aussi des salariés qui sont motivés, qui voudront apprendre ce savoir-faire pour pouvoir encadrer d'autres groupes sur d'autres territoires.
Pour accompagner ces thématiques sur les territoires, un poste de référent espace vert a été créé, occupé par Simon Receveur depuis octobre 2021.
Le poste de référent espace vert au sein d'Haute-Savoie Habitat, c'est de suivre donc les marchés qui sont mis en place pour l'entretien des espaces verts, donc des espaces communs, des logements. C'est aussi de recréer des nouveaux marchés, de les améliorer, de suivre ces marchés-là. Après, c'est de faire le lien avec les entreprises donc, qui ont ces marchés-là, voir si tout se passe bien avec les locataires, avec les territoires, et améliorer la qualité de leur travail et aussi donc, les aider à avancer s'ils ont des difficultés ou s'ils ont des problèmes de personnel ou de relations avec certains locataires. Après, il y a de suivre les projets aussi des territoires. Il faut parler surtout d'écosystème entre les locataires, les espaces verts, espaces verts, je parle animal comme végétal, hein. Et nous, en fait, tout ça est un écosystème, mais c'est là-dessus qu'il faut travailler, parce qu'on ne va pas mettre des zones de biodiversité où les enfants, par exemple, jouent au ballon. On ne va pas mettre des arbres proches des façades pour avoir des problèmes de locataires, enfin que les locataires sont pas contents parce que les branches touchent. Donc c'est tout un, faut pas faire n'importe quoi. Donc c'est tout ça qui est intéressant, c'est l'aménagement des espaces verts en respectant tout cet écosystème et en y apportant de la biodiversité pour nos enfants, les enfants des locataires et tout le monde, quoi.
Un des projets suivis par Simon a été initié par Alexandre Massard et Marjorie Delmé, respectivement délégués territoriales et responsables de site. Ils nous en disent plus.
On a fait un constat, c'est qu'on a sur notre site beaucoup d'ensembles avec des grands espaces verts, des grandes pelouses qui ne sont pas plantées, qui nécessitent juste de la tonte toute l'année. Et à l'heure actuelle où on se dit que certaines personnes sont capables d'aller sur des sites internet pour parrainer un arbre à l'autre bout de la planète, avec une petite photo, sans trop savoir ce qui va devenir, sans trop savoir à quoi ça sert finalement, on s'est dit pourquoi pas le faire chez nous. Pour notre projet qu'on a nommé « Plantons des arbres pour verdir demain », l'idée c'était de se dire on parraine un arbre qui va être proche de chez nous Et en fait, ce qu'on veut, c'est que les gens parrainent cet arbre et en même temps, on crée une animation pour sensibiliser sur quels sont les intérêts de planter cet arbre au niveau des animaux, au niveau de la flore, au niveau des fruits, avec des enfants autour, avec, voilà, créer une, ça, aussi ce lien social qu'on a besoin dans nos ensembles. Et du coup, le locataire pourra le faire en bas de chez lui, mais pourra le faire aussi dans d'autres ensembles où ça s'y prête peut-être plus qu'en bas de son terrain.
Par la suite, il y aura aussi des ateliers qui seront mis en place pour expliquer un petit peu comment arroser, parce qu'au début, il va falloir quand même arroser l'arbre, comment l'élaguer aussi quand même, entretenir l'arbre, et puis des projets peut-être de compostage à côté, enfin plein de petits ateliers qui pourront naître, je l'espère, rapidement.
Au-delà du projet de plantation d'arbres, notre envie, c'est aussi notre force de frappe. On a aujourd'hui plus de 20 000 logements et on se dit qu'on peut avoir une possibilité de communication sur un très grand nombre de familles au sein du département. Et rien que cette campagne de communication qu'on va envoyer auprès des locataires, bah ça permet de les sensibiliser. Même les gens qui ne franchiraient pas le pas maintenant pour planter un arbre, en tout cas, ils auront eu cette communication, ils auront compris pourquoi c'est important de planter des arbres, pourquoi c'est important de recréer de la biodiversité. Et pourquoi c'est important de respecter nos espaces verts.
Donc j'en ai déjà parlé à certains de mes locataires référents pour voir un petit peu déjà sonder en amont. Et ça a été très bien accueilli. Ils m'ont demandé même pourquoi je n'avais pas lancé ça avant. Ça a été aussi très bien accueilli par la structure quand on en a parlé lors de nos toutes premières réunions. On a eu un engouement, on n'a pas eu de frein. Les gens étaient derrière nous. Ils nous ont porté aussi sur les petites idées ou les petits freins qu'on avait. Et je suis également super contente que ce projet puisse du moins démarrer.
Ce soutien de la structure a également permis à Simon de mettre en place d'autres projets et d'y impliquer de manière systématique les entreprises.
Maintenant, avec chaque entreprise qui intervient pour élaguer les arbres ou même tailler des arbustes, hein, si ça peut être broyé, parce que par exemple, il y a certaines espèces comme le thuya ou le résineux, on ne peut pas le réutiliser derrière, c'est trop acide pour la terre. Et justement, après, les locataires peuvent l'utiliser s'ils ont des raies de jardin aussi. Donc, on laisse l'accès aux locataires de ce tas de broyats. Ils se servent comme ils ont envie. S'il en reste, eh ben, nous, on va l'étaler dans nos massifs. On va demander à l'entreprise, bah, tenez, on va le mettre autour des arbres pour éviter que l'herbe pousse et puis qu'il vienne tondre peut-être trop près des arbres. Et ça sera, je pense, écrit dans un marché quand on fera le nouveau marché des entretiens d'espaces verts, de ne plus évacuer les broyats, mais aussi également les petites branches. On peut faire des zones, des tas à un endroit pour garder un petit tas de branches pour soit les hérissons ou soit faire des caches en fait. Hein. C'est un hôtel à insectes en naturel, quoi, tout bêtement.
Le vivant animal est au cœur de nos préoccupations depuis longtemps. Simon et Sophie en témoignent.
Quand on abat un arbre qui est mort, hein, parce que on n'abat pas les arbres vivants chez nous, c'est juste en fait pour réutiliser, pour pas que l'arbre, entre guillemets, il meurt complètement, en fait. Donc, on va laisser un tronc de 2 mètres ou 1 mètre 50 de hauteur et on va installer un hôtel à insectes dessus, quoi. Voilà. Ou alors, on va l'utiliser comme hôtel à insectes, à percer des trous, en fait, dans le tronc pour que bah, ce tronc-là ait une autre vie, en fait.
Les premiers nids d'hirondelles que j'ai posés, c'était en 2011, donc c'est pas d'hier. J'étais l'une des premières, en fait, à poser des nids d'hirondelles sur ma première réhab thermique, qui est à Rumilly, au Grumillon. Et l'entreprise qui les avait posés m'avait vraiment regardé bizarrement. Ça avait été très drôle comme expérience. Donc on avait posé, je sais plus, mais en fait il y a 8 bâtiments, donc on en avait posé quand même quelques-uns. On avait posé plus de 20 nids d'hirondelles. Et aujourd'hui c'est des nids qui vivent très bien et qui sont. Il y a un bon taux d'occupation. Ils en ont même refait à côté des nids naturels. En fait, ils ont réimplanté des nids naturels à côté.
Au-delà de respecter le vivant, on s'en inspire. C'est notamment le cas du projet Accueil 22 qui, grâce au biomimétisme, s'est inspiré du vivant pour réinventer la notion d'accueil. La question était la suivante. Comment transparaît l'accueil dans le vivant ? Sophie était l'une des 11 salariés volontaires qui ont travaillé sur le projet.
En autre groupe de travail, il y a l'Accueil 22. Donc l'Accueil 22, c'est le réagencement en fait de l'agence de Villagrand, où on essaye d'immiscer le vivant dans l'agence, enfin le vivant autre que l'humain bien sûr, vivant végétal et animal. Donc on travaille sur ce sujet pour rendre plus humain, plus accessible, plus agréable en fait les accueils.
Pour finir, nous souhaitions vous parler d'un projet en gestation qui nous tient à cœur, appelé en interne l'Académie Haute-Savoie Habitat et la Conciergerie Solidaire. Ce projet s'inscrit dans une démarche régénérative. Alexis Longval, embauché spécifiquement pour ce projet en juin dernier, nous en parle.
L'Académie, c'est un projet de tiers-lieu qu'on développe actuellement avec la ville d'Annecy sur le terrain de l'ancienne scierie de Crangevrier. Donc ce terrain, c'est une friche industrielle qui a été préemptée par la ville d'Annecy, qui est située juste à côté du quartier des Passerelles. Ce qu'on vise sur ce projet d'académie, c'est de développer notamment un centre de formation pour nos besoins en interne et les besoins de nos parties prenantes, et des espaces de travail partagés qu'on vise plutôt à destination des acteurs de l'économie sociale et solidaire, partenaires de Haute-Savoie Habitat. On essaiera également de développer au sein de cette académie le projet de conciergerie solidaire. Donc, lors de la phase d'étude de ce tiers-lieu, on pourrait installer des activités éphémères qui permettraient de faire vivre le site dès la phase d'étude et de préfigurer les usages futurs de ce tiers-lieu. C'est la démarche qu'on appelle l'urbanisme transitoire. Cette phase, elle permettra également de rendre concrète la conciergerie solidaire en expérimentant la mise en place de services du quotidien à destination de nos locataires, mais aussi des habitants du quartier. Donc l'objectif de cette conciergerie va être de favoriser l'échange de services entre les habitants, en s'appuyant notamment sur le système Privilog et en tentant de le renforcer. Et cette conciergerie, elle pourra aussi permettre de favoriser l'insertion professionnelle de personnes qui rencontrent des difficultés d'accès à l'emploi, que ce soit nos locataires ou d'autres habitants du quartier. Donc cet espace, ce tiers-lieu, l'Académie, s'inscrit pleinement dans notre plan de transformation d'entreprise vers demain et vise à devenir un lieu de coopération et de régénération socio-écologique où nos locataires pourront trouver toute leur place en tant qu'acteurs de leur immeuble, de leur quartier et plus globalement de leur communauté, ce qui contribuera à améliorer leurs conditions de vie, à la fois sur le plan économique mais aussi sur le plan social.
Cet épisode touche à sa fin, terminant la série des podcasts sur la thématique de l'engagement responsable. J'espère qu'ils vous ont plu et qu'ils vous ont permis d'y voir plus clair sur ce qu'est l'engagement responsable chez Haute-Savoie Habitat. Pour ma part, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt dans un prochain épisode.
J'aimerais vraiment, enfin en rêve, je souhaiterais vraiment c'est que nos quartiers soient complètement verts, qu'on ait des arbres un petit peu partout, que les enfants se retrouvent à jouer comme je jouais quand j'étais petite dans les forêts, et même s'ils vivent en plein centre d'Annecy, que ça soit vraiment vert, Pico de Savoie Habitat puisse voilà, se sortir grandir de tout ça et qu'on puisse être content d'observer les oiseaux, d'observer toute cette biodiversité qui est revenue dans nos villes.